Comment passer de nos schémas d'habitude à notre sagesse? C'est un peu ça que vise la méditation. Et le Bouddha a proposé une manière très claire et incroyablement utile de travailler avec le qui suis-je pour que ce retournement s'opère. Parce que la connaissance, notre sagesse, elle est déjà là. Mais nous ne le savons pas. Nous n'avons pas accès. Quelque chose recouvre. Et ce soir, j'aimerais vous proposer une réflexion sur les trois premières vérités nobles. C'est merveilleux, les enseignements du Bouddha, parce que nous répétons toujours la même chose, nous entendons toujours la même chose, et c'est toujours différent. La même chose, le processus d'approfondissement est le même pour chacun, et pourtant, il est totalement subjectif, personnel et différent. Mais le lâcher prise, c'est du lâcher prise, c'est pareil, hein? Soit je fais ça, soit je fais ça. Donc les trois premières vérités, la première que nous avons déjà pas mal abordée, dukkha. Dukkha, c'est cette imperfection du monde parce qu'il est duel, parce qu'il est impermanent. Les choses, elles émergent et elles ont un temps de vie et elles passent. Pour les mauvaises choses, tout va bien, on est bien content. Pour les bonnes choses, un peu moins. C'est comme ça pour tous les objets de conscience, ceux qui sont bénéfiques et ceux qui sont non bénéfiques. C'est comme ça pour les choses matérielles. Les galaxies changent. Et nos cellules changent, la peau change, c'est plus les mêmes cellules qu'il y a je sais pas combien de temps. Je crois que ça change même très vite. Le corps change, il naît, il vit, il meurt. Les émotions changent, les pensées changent. La conscience est là quelquefois, pas toujours. La qualité de la conscience est toujours disponible. La connexion, c'est à nous de la faire. Et alors, il y a ces 10 000 joies et ces 10 000 peines qui nous font d'autant plus souffrir que nous ne les acceptons pas. Et dukkha, c'est d'abord quelque chose que j'entends. Je me souviens que la première fois que je l'ai entendu, j'étais drôlement soulagée parce que j'avais toujours l'impression que c'était ma faute quand je souffrais. qu'il y avait une erreur, que ça ne devrait pas être comme ça. La même chose quand les autres souffraient. Et il y a quelque chose qui a été très soulagé, de savoir que c'est du réel et que nous ne pouvons pas toujours expérimenter la joie. Nous avons besoin de cette impermanence, c'est la nature humaine qui est ainsi. Je me souviens dans une retraite où tout était parfait. Et ça durait, c'était parfait, c'était parfait. Puis un beau jour, j'étais assise là, tout parfait. Puis ce qui est venu, c'est, ben ouais, puis alors? Ça n'allait pas. Hein? C'est pas possible qu'on maintienne quelque chose de cette qualité-là. Ah, on a ras-le-bol à un moment donné. C'est bon, quoi. J'ai vu. Dukkha, d'abord, nous l'entendons. Nous entendons, ah ouais, c'est peut-être vrai, ouais, mais quand même, ça questionne. Et puis après, parce que nous pratiquons, nous nous rendons compte que, ben oui, c'est le réel. Alors, quelque chose fait que nous incarnons cette compréhension. Je comprends. Donc je développe une équanimité par rapport à ces moments de souffrance. J'arrête de me tendre et de tellement vouloir autre chose, d'avoir plein de pensées, de réactivité ou de désespoir. Et puis peu à peu, j'ai compris. J'ai compris, ça veut dire que l'instant devient assez. Ça n'est pas rien quand l'instant devient assez, que j'arrête de vouloir un idéal qui n'existe pas et que je sais reconnaître la beauté des choses telles qu'elles sont. Même quand elles sont coussi coussa. Quelquefois, il faut faire un petit effort. Mais c'est bon. J'ai compris. Dukkha, c'est la souffrance quand ça fait mal, hein, la douleur physique, le choc émotionnel qui est suivi de l'obsession mentale. Que ce soit chez moi, chez l'autre, hein, dukkha. Mais c'est aussi cette forme d'insatisfaction qui fait que tout va bien, mais en fait, ça va pas. C'est pas vraiment ça. Il y a comme un manque. Et d'une certaine manière, c'est beau de sentir cette limite de l'incarnation. Quelquefois, il y a la plénitude et puis il y a aussi ce manque. Même la plénitude, elle a ses limites. Parce que ce qui résonne, c'est le un, la non-séparation. Et alors nous cherchons dans la relation dépendante ou dans la nourriture ou dans l'excès de loisirs. Ou nous cherchons à combler une forme de manque. Nous meublons pour ne pas sentir cette forme de nostalgie, notre appartenance au tout, alors que nous sommes limités dans une personnalité. C'est dur d'être juste soi. Première vérité dukkha à explorer. Et il ne faut pas croire que nous entendons et puis qu'après on travaille, on commence à incarner, puis qu'après on a compris, puis que c'est définitif. C'est pas comme ça. Les lois spirituelles sont liées au mystère et au fait d'être toujours prêt à accueillir l'instant. Et Dieu merci qu'il est mystérieux. Si on avait compris, on serait mort. Il n'y aurait plus de vie, il n'y aurait plus d'intérêt. Parce que c'est une compréhension dans l'instant. C'est un knowing. En anglais, c'est bien parce qu'il y a ce ing qui fait que ce n'est pas quelque chose qui est known, ce n'est pas quelque chose qui est compris. C'est toujours en train d'être compris. C'est toujours en train d'être retravaillé, de nouveau rencontré. La deuxième vérité, la cause de la souffrance, tanha, dont on a aussi parlé déjà, c'est ce désir. Je suis là et je veux autre chose. Tanha, c'est d'abord simplement une énergie temporelle. Je veux aller demain, je veux faire ça, j'ai des buts à atteindre, des objectifs. C'est une énergie de vie, en fait, c'est une énergie de vie. C'est la cause de la souffrance. Si ça n'est pas compris, si ça n'est pas mis en lumière, mais lorsque c'est mis en lumière, c'est simplement une énergie de vie. Quelqu'un demandait dans les entretiens si l'éducation crée Tanha. L'éducation contribue à développer Tanha. Parce que dans l'éducation, nous voulons la réussite, la louange, le gain, les plaisirs. Mais Tanha, c'est cette première respiration quand l'enfant naît et que tout son être va vers la vie. Et c'est assez beau de voir comment, quand un enfant naît, son visage est tout fripé, c'est pas très drôle, hein? Il naît, c'est dur. Puis tout le monde est tout content. Puis quand quelqu'un meurt, le mort, si vous avez vu, si vous sentez l'énergie qu'il y a autour d'une personne morte, c'est tellement plein, tellement. Il y a un truc magique. Et puis tout le monde pleure. Donc il y a ces huit attachements mondains que le Bouddha a définis, il aurait pu en définir d'autres, mais ça couvre pas mal tout le tableau de ce tanha, je veux. Je veux ceci et pas cela. Donc ceci, c'est d'abord le plaisir. Nous pouvons bien voir combien nous aimons le plaisir, combien il y a un élan vert. Et il y a des plaisirs extraordinaires. Tout ce qu'on développe au niveau musical, au niveau artistique, théâtral, spirituelles. Les beautés spirituelles, c'est pareil. Nous aimons lorsque nous sommes nourris spirituellement. Le plaisir, c'est le petit plaisir de mon café le matin, mais c'est aussi ces grands plaisirs relationnels lorsque nous nous connectons d'être à être, que nous nous rencontrons vraiment. Et puis aussi, nous avons besoin les uns des autres. C'est bon de partager, même si c'est un peu coussi-coussa, mais c'est chouette, on est ensemble. Ceci, c'est aussi la réussite. Combien nous aimons réussir, combien nous aimons que l'autre réussisse. Ça fait mal, oh mince, t'as loupé. Et c'est important de conscientiser ce désir de réussite de manière à connaître le qui suis-je. C'est comme ça, un moi, il aime réussir. C'est bien. La louange, nous aimons beaucoup que l'autre nous apprécie, dise comme on est chouette, comme on est adéquat, nous valorise, nous reconnaisse. C'est douloureux de ne pas être vu ou d'être méprisé. Et nous aimons gagner. Même si je suis très riche, je suis plus contente quand je trouve 20 francs par terre que quand ça manque dans mon porte-monnaie. C'est étonnant. C'est quand même étonnant. Comme on aime gagner, comme on aime que l'autre gagne. Enfin. Dans le meilleur des cas. Et puis, je ne veux pas cela. Alors, c'est quoi ce pas cela que je ne veux pas? Enfin, que je veux éviter, disons. Ben, c'est la peine. Je n'aime pas les sons désagréables. En retraite, il y en a des fois des sons désagréables. Et je peux sentir comme j'aime pas. Nous n'aimons pas tout ce qui a trait au sens quand ça n'est pas bénéfique ou agréable ou bienfaisant. Mais nous n'aimons pas non plus les énergies qui viennent sur le tabouret. C'est déplaisant, c'est douloureux. Il y a la peine, je n'aime pas la peine. Au niveau spirituel aussi. Tant que nous n'avons pas travaillé dukkha, tant que nous sommes saisis par tanha. Nous n'aimons pas l'échec. Souvent, il y a peut-être un échec qui est visible pour les autres, mais il y a surtout l'échec que je crée moi. Je me sens un échec. C'est pas juste que j'ai échoué, mais je crée un moi qui fait tous les problèmes avec cet échec. Nous n'aimons pas être blâmés, critiqués ou jugés. Le regard de l'autre est quelque chose d'extrêmement... nous sommes très sensibles au regard de l'autre. Nous pouvons nous sentir le regard de l'autre peut tuer. Le moi peut se sentir totalement pétrifié par le jugement d'autrui. C'est un monsieur Brown qui disait, il a fait plein de petites phrases que je trouve assez sympas. C'est très important d'arrêter de juger, mais c'est bien plus important de remarquer que je le fais. Et c'est pareil pour le blâme. Remarquer combien ça peut nous toucher. Et ouvrir l'espace de conscience. Ah ouais, ça fait mal. Et ne rien faire d'autre, il n'y a rien besoin de faire d'autre pour apprivoiser ce réel, parce que nous allons toujours, une fois ou l'autre dans notre vie, être blâmés. Alors, quand ça arrive maintenant, ben, je profite de travailler ça pour que j'en sois libérée. Et la perte, nous détestons perdre, même si nous n'en avons pas besoin de ce qui nous a été enlevé. Mais nous perdons pas seulement les richesses matérielles, nous pouvons perdre la santé, nous pouvons perdre la tête, nous pouvons perdre, je vous laisse voir ce que vous pouvez perdre. Nous pouvons perdre. Donc, lorsque nous travaillons un peu cette réalité de ces attachements au monde, c'est la force du désir du moi qui commence à s'apaiser et à s'affaiblir. Il y a toujours cette joie du plaisir, ce rejet de ce qui ne l'est pas. Mais nous n'y croyons plus trop. C'est OK, c'est la vie. Donc nous sommes moins emprisonnés. Il y a un autre aspect à ce désir ou à cette soif. C'est la soif d'existence et la soif de non-existence qu'on a aussi un peu abordé, mais que je voulais voir plus en profondeur. Parce que c'est pareil, on entend, mais après, il faut mettre en pratique. Et la mise en pratique, elle ne peut se faire que dans l'instant. Et tout à coup, hop, quelque chose qui vient, et il y a cette soif d'existence. Je dois faire bien, je veux être vu, je veux réussir, je veux être le meilleur. Et tant pis pour les autres. Je fais un peu comme ça pour les autres, c'est comme ça, puis moi, c'est là. Et nous pouvons sentir lorsque nous faisons ce geste-là. La jalousie fait partie de ça, la comparaison, l'orgueil, la vanité. Et de nouveau, si vous avez une attaque de vanité, mais laissez-la être. Rien n'est jamais solutionné par bonne intention ou par devoir, mais toujours par la puissance de Sati, la pleine conscience. Sentez-vous le meilleur. Oh, mais je suis meilleur, c'est génial. Je suis vraiment bien. Mais avec la conscience qui reconnaît L'impermanence, le dukkha, parce que c'est quand même pas très noble. Et qui sait que c'est le chemin? Que ça n'est pas une tare. Que c'est quelque chose qui fait partie du moi. Mais la jalousie, si vous la conscientisez bien, c'est vraiment douloureux. Et ça suffit de sentir comme ça fait mal parce que, comme je l'ai déjà dit, un esprit cultivé va naturellement vers la lumière. J'ai pas besoin de tirer sur la fleur pour la faire pousser. Je ne fais que travailler la terre. Est-ce que je suis là? Et plutôt que d'avoir toujours le ça ou ça, eh ben je prends tout. Il y a ça et ça. Ah ben il y a la vanité, puis il y a la jalousie, puis il y a... Ah ben il y a ça et ça, c'est tout bon. Et la conscience, bien sûr. Il y a la conscience. Et la soif de non-existence, ce sont des tendances. Des tendances qui, on appelle ça des sankhara, ce sont des tendances karmiques. Nous naissons avec cette tendance à plutôt faire ce geste-là, ou bien celui-là. Il y a tous les autres qui sont mieux, puis moi, je suis là. Et bien sûr, nous vivons les deux dans notre propre vie, mais la tendance, elle est très profonde. Et elle demande vraiment à être respectée et mise en lumière dans l'instant. Quand nous sentons que nous nous faisons petits, nous n'avons pas besoin de nous faire grands. Mais nous pouvons bien sentir comment nous nous faisons petits. Et après, peut-être que l'effort sage, ce serait en toute humilité de se dire, eh ben, moi, je suis le meilleur. Je suis génial. Je crois qu'il n'y en a pas de meilleur au monde. Et vraiment de se le dire comme un jeu, mais comme un jeu sacré, pour équilibrer soif qui crée souffrance. Il y a le tanha relationnel, toutes nos projections, tous nos besoins de recevoir et de donner, que nous pouvons aussi mettre en conscience combien l'autre est en même temps une terrible menace et tellement précieux. Quand nous sommes malades, des fois il suffit qu'il y ait quelqu'un qui vienne juste dire bonjour et toute l'énergie change. Et dans une retraite, nous pouvons bien sentir ce tanha relationnel. Comment les autres sont plutôt des menaces, que j'ai peur. Et c'est assez logique, parce que si nous imaginons notre vie dans la Renaissance, l'autre a été une fois un bourreau, une fois peut-être ma victime, une fois mon père, une fois mon fils, une fois mon maître. Donc de nouveau, pourquoi mettre ça, pourquoi en parler, pourquoi le mettre en lumière? C'est pour que ça perde cette puissance hypnotique de croire que c'est moi et toi et comment faire pour que ça aille? Mais en fait, ça va. C'est juste que nous ne sommes pas intimes avec nous-mêmes, donc nous vivons dans les projections réciproques et ça peut pas aller, hein, parce que c'est pas du réel, c'est du vent. Il y a plusieurs moyens habiles pour retrouver une relation à moi-même avant de vouloir aller dans la relation à autrui. Et nous les avons abordés pendant cette retraite. Nous pouvons pratiquer metta, pratiquer la compassion, les refuges et surtout, surtout, une respiration consciente. Quand vous êtes dans une polémique interrelationnelle difficile, regardez ce que ça fait. Je m'arrête, une respiration consciente. Énergétiquement, tout change, tout peut changer. C'est un outil précieux. Et à part ça, vous pouvez faire de la communication non violente, de la somatic experiencing, différentes techniques de travail intérieur qui aident à sortir de nos schémas. Bien sûr, le plus grand attachement, c'est l'attachement à moi. Moi. J'ai perdu la connexion avec l'espace et le silence, et je crois à moi. Et c'est très intéressant quand nous le vivons ici et maintenant, non pas comme une idée. Mais quand il y a ce sens du moi qui arrive, parce que les entretiens pour ça c'est très bien, parce que quand je vais en entretien, surtout quand il y a une retraite en silence, ce sens du moi est aiguisé. Moi, ouf, moi. Ah, est-ce que j'ai envie, pas envie, qu'est-ce que je vais dire, comment ça va être? Et bien sentir ce sens du moi. Lorsqu'il n'y a pas de... Lorsqu'il n'y a rien, que je suis en train de marcher dehors, hein, il n'y a pas de sens du moi. Hein. On sent bien comment c'est neutre, c'est tranquille, c'est paisible. Et puis, quelque chose se passe. Et tout d'un coup, c'est totalement autre. La couleur de l'espace change. Il n'y a rien à faire, mais sentir ce moment-là. C'est tout. Avant, c'était comme ça, ou maintenant, c'est comme ça. Et bien sûr, dans le corps. Sentir comment le corps est tout à coup aux abois. Le non-moi, c'est une notion difficile. Je me souviens tout au début, quand on allait au Mont Pèlerin avec Geshe Rabten, on passait des heures à parler de ce non-moi. Mais c'est quoi ce non-moi? C'est au fond pas grand-chose. Hein. Le sommeil, c'est intéressant pour comprendre le sens du moi. Parce que lorsque nous dormons, ben, il n'y a plus de moi. On finit le moi. Il y a peut-être des rêves, mais sur le moment, je dors. Et Qu'est-ce que nous aimons dormir, hein? Ouh là là, j'ai fait une insomnie. C'est dur de faire une insomnie. Nous aimons dormir, mais nous n'aimons pas du tout mourir. Et lorsque nous nous réveillons, observez bien quand je me réveille, comment je viens de rien, du non-moi, et comment le moi se repositionne. Quand on devient plus vieux, c'est très intéressant parce que des fois, ça prend du temps. Et puis, je me réveille, puis attends voir, on est quel jour? Bon, je sais à peu près qui je suis, mais je ne sais pas ce que je dois faire dans la journée. Et ça prend du temps jusqu'à ce que tout se mette en place, vous verrez. C'est passionnant. Et puis tout d'un coup, ah ouais, ça y est, j'y suis. J'y suis au niveau du temps, j'y suis au niveau de mes activités, de l'espace, je sais où je suis. Ok, c'est bon. Eh bien, ça se passe pour vous aussi, mais vous ne le voyez pas, vous n'avez pas de chance. Et c'est le moi qui s'installe. Le moi s'installe dans un corps. C'est aussi très beau de voir le développement de l'enfant. Je me souviens, ma petite fille, elle avait peut-être 2 ans. Avant de dire moi, elle s'est fait mal. Mais jusqu'à ce que le mal aille de l'endroit physique à l'émotion qui fait qu'elle pleure, je voyais le temps que ça prenait. C'était fabuleux. Je voyais, elle avait mal. Ça se construit, hein, tout ça se construit. Donc on dit qu'on retombe en enfance. Voyez, moi je retombe en enfance. C'est vrai, à part ça. Je vous lis une parole d'Ajahn Suchito. Plus il y a d'ego, plus il y a de souffrance. Être sans ego, c'est apprendre à être sans anxiété, surtout face à la non-perfection. Nous ne sommes pas parfaits. Ce monde n'est pas parfait. Il ne l'a jamais été. Et il ne le sera jamais, du moins pas selon nos critères. Le travail de la méditation n'est pas de devenir parfait. Ce n'est pas de réaliser un quelconque idéal. C'est une place de lâcher prise, de bienveillance avec soi-même, les autres et le monde. C'est de voir que tout est en mouvement. Rien de ce que nous pensons que nous sommes ne peut être contrôlé, ne peut durer. Le regard que nous portons sur nous-mêmes et sur le monde est toujours changeant. Il arrive, se développe et s'arrête. C'est sa seule constance. Si vous avez l'impression que vous devez accomplir quelque chose, ça s'appelle l'agitation. Si vous avez l'impression que vous n'avez rien à accomplir, ça s'appelle la paresse. Si vous avez l'impression que vous avez manqué à accomplir quelque chose, ça s'appelle l'inquiétude. Si vous avez l'impression que vous avez accompli quelque chose, ça s'appelle l'orgueil. Celui que vous avez dans le champ de conscience est celui que vous devez avoir. Il faut bien en avoir un de toute façon. Nous avons à pratiquer la patience, la bonté, la simplicité. Nous avons à revenir à l'instant présent, au dénuement de la présence. Le pouvoir de la présence est assez fort pour changer toute chose par la compréhension et l'amour. Je ne suis pas OK, tu n'es pas OK, le monde n'est pas OK. Et c'est OK. Le troisième aspect, ce qu'on appelle Nirodha, C'est l'éveil, c'est la cessation. Quelque chose s'arrête. Le temps s'arrête, l'espace, la personnalité, le tanha s'arrête. Et le moi a peur de ça, parce que c'est une forme de rien. Et le moi a peur du rien. C'est pour ça que quelquefois, quand on veut vraiment être en quête du qui suis-je, il y a un bon exercice, je sais que Bernard l'a pas mal pratiqué, c'est juste de toujours questionner qui suis-je. Plutôt que de se dire, ah, il faudrait aller vers le non-attachement, mais franchement, le non-attachement, ouais, mais Anatta, non, mais franchement, moi, quand même, moi, je suis quelqu'un. C'est vrai, on est quand même quelqu'un, franchement. Questionner qui suis-je, peu à peu, ce qui vient, c'est que nous sommes OK, ce moi, mais que c'est OK qu'il soit poussière, que c'est en étant poussière qu'il prend toute sa grandeur. Lorsque nous lâchons prise, que ça s'apaise ou que ça s'affaiblit ou que ça s'évanouit à l'intérieur, alors il y a une plénitude du dharma, une plénitude d'espace et de silence. Et même le moi, il reconnaît que franchement, c'est pas mal. Il veut bien. Et c'est ça ce retournement qui fait que peu à peu, les cellules ont compris et elles peuvent lâcher Tanha. Ça n'est pas une compréhension intellectuelle, c'est une réalisation corporelle. C'est pourquoi la conscience corporelle est importante, parce que c'est le corps qui se spiritualise, on pourrait dire. C'est pour ça que quelquefois il y a des histoires de moines qui sont morts et puis qui restent vivants, enfin frais. Pas vivants, mais frais. Le cadavre reste vivant, frais, comme vivant pendant longtemps. Il y a trois aspects à cette cessation. Le premier, c'est la non-passion. Le besoin d'intensité diminue. Le besoin de meubler l'espace et le silence avec des choses où on se sent vivre. Ce qui est dramatiquement développé pour les jeunes aujourd'hui, dans les loisirs, dans les... Des fois, ça me fait mal au cœur de voir le peu d'alternatives qui est offert à cette frénésie de meubler l'instant. La non-passion, c'est cette satisfaction qui vient des choses simples, de s'arrêter, de se promener, de... Et avant d'être extérieur, c'est énergétique. Au fond, quand l'énergie monte, ça ne touche plus le corps et l'esprit. Il n'y a plus beaucoup d'intérêt pour cette forme de stimulation. Et alors, nous pouvons aussi recevoir l'extérieur ou l'autre quand il est dans cette forme de stimulation. Tranquille, hein. Moi, je vis ça un petit peu avec mes petits-enfants. C'est chaud. La non-passion. L'autre aspect, c'est le désenchantement. Nous ne sommes plus enchantés par le monde. Nous avons mis le monde à sa place. Nous savons ce qu'il peut nous apporter. Nous savons apprécier ce qu'il peut nous apporter. Mais nous ne lui demandons pas plus. Même une belle relation, un bon job, un bon ci, un bon ça. Oui, c'est OK, hein? Bien sûr. C'est vers ça que nous allons aller puisque nous sommes engagés dans ce monde. Mais tranquille, hein? C'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est cette connexion possible à l'intérieur qui fait que peu à peu, nous sommes connectés à cette inébranlable paix. Que rien ne peut ébranler. Et le dernier aspect, l'émancipation. Ou la libération. Nous avons cette possibilité de se laisser nourrir par ce qui est plus grand que nous. Dans la méditation, c'est très très bon quelquefois de juste laisser faire. J'arrête d'essayer quoi que ce soit, je laisse faire. Et alors, nous pouvons quelquefois sentir comment c'est bon, nous sommes connectés, nous sommes reliés, nous sommes nourris en profondeur. Nous pouvons parfois aider cette transmission, on pourrait dire, en prenant refuge dans le Bouddha, Dharma, Sangha, ou vous pouvez l'appeler comme vous voulez, dans la présence, dans la vérité et dans l'amour. Et ainsi, nous devenons indépendants. Ça ne veut pas dire égoïste du tout, mais ça veut dire que la vie devient simple, que j'arrête toujours de demander que l'extérieur comble ce que je ne peux pas combler à l'intérieur. Et ça ne veut pas dire que ne nous nourrissons pas les uns les autres, mais nous nous nourrissons librement. Sans exigence. Je vous lis encore une petite parole que Christelle aime bien. L'oiseau en cage. Nous sommes comme des oiseaux en cage. Peu importe que la cage soit merveilleuse, l'oiseau n'est pas content. Il a sans cesse l'espoir de la liberté. Il souffre d'être enfermé. Les riches, les privilégiés n'ont pas plus de chance. Ils sont seulement enfermés dans des cages dorées. Depuis le moment où tu entends le Dharma jusqu'au moment où tu es Dharma, tu vas encore souffrir et tu ne seras pas libre de l'expérience. Jusqu'à ce que tu sois Dharma, ton bonheur est dépendant de facteurs extérieurs. Tu t'appuies sur eux. Tu t'appuies sur les plaisirs, la reconnaissance des autres, la notoriété, la richesse ou les objets matériels. Tu peux avoir toutes sortes de connaissances, mais elle est teintée par les intérêts du monde. Et tu ne peux pas être délivré de la souffrance. Tu es encore comme un oiseau en cage. C'est OK. Nous sommes, on peut voir, mettre en lumière. Oui, il y a une partie où je suis comme un oiseau en cage. C'est très important de voir ça, de le reconnaître. Parce que nous ne pourrions pas reconnaître que nous sommes comme un oiseau en cage si nous ne savions pas très bien ce que c'est que d'être libre. Et nous sommes en chemin, ensemble. Et c'est de toute beauté. La méditation permet cet apaisement de la force du je veux. C'est Joseph Goldstein qui racontait, je ne crois pas que c'était son histoire, c'était l'histoire d'un Rinpoché, je crois, qui disait, c'est pas vraiment qu'il n'y ait pas d'ego, on a tous l'impression d'être nous, hein, moi je suis moi, mais on exagère. Recevez en vérité les expériences de la vie. Laissez la vie vous dire ce que vous avez à faire. Ce n'est pas tellement vous qui pratiquez, mais la vérité en vous qui vous dit quoi faire. Ne donnez pas trop d'importance à ce qui arrive. Essayez de trouver une manière d'être ouvert, simple, une attitude qui ne cherche pas à supprimer, à accaparer, qui ne lutte pas contre, qui ne croient pas à la réalité des expériences, toutes ces attitudes de saisie. N'essayez pas de résoudre quoi que ce soit, soyez ouvert et réceptif au réel du maintenant. Je vous propose qu'on prenne un moment en silence.